Et c'est une très belle complémentarité. Puisque saint Paul dit que l'homme doit mourir pour sa femme. Comme le Christ est mort pour l'Église. Vous voyez, la galanterie, la chevalerie, l'abnégation de l'homme pour son épouse, le don de, de son énergie, de sa vie pour son épouse. La préserver. Je suppose quand même que, même dans 100 ans, lorsqu'un bateau va couler, il y aura encore quand même quelqu'un qui dira les hommes et les femmes et les enfants d'abord. J'espère. Enfin, ah ben non, ça va me vexer. Voilà. Donc, chute de l'homme et promesse du Sauveur. L'homme avait été établi roi de la nature et placé dans un jardin délicieux, le paradis terrestre, où il pouvait jouir de tout. Mais, afin qu'il reconnût le plein domaine du Créateur, Dieu lui avait interdit de goûter aux fruits de l'arbre dit de la science du bien et du mal. Il n'avait pas à décider lui-même et à l'expérimenter le mal. Il devait avoir confiance en son Père, en son Créateur. Le bien, c'était l'obéissance et la grâce de Dieu, l'amitié divine. Le mal, la désobéissance et la perte des dons qui n'étaient pas dus à l'homme, mais dont Dieu l'avait enrichi. Cinquième point. L'homme osa se révolter. Ève, se fiant au serpent, démon, plutôt qu'à Dieu, et Adam, par complaisance pour sa femme, désobéir. Donc, c'est pour ça qu'il y a une vieille dent contre les femmes chez les machos. C'est parce qu'on dit, c'est quand même Ève qui nous a présenté la pomme. Elle ne nous a pas présenté la pomme, elle nous a présenté la toute-puissance et être des dieux. C'est ça qui a attiré Adam. Autant que la beauté d'Ève et la beauté du fruit, n'est-ce pas ? Le fruit lui parut bon. Mais pomus, ça veut dire le fruit. Mais non, c'est le fait d'être tout-puissant et divin qui a fait chuter Adam. Mais il est vrai que Ève a contribué à cette chute. Ce n'est pas Lucifer en personne qui l'a obtenu. Et alors, on va dire, oui, mais alors c'est donc que Ève était plus faible pour qu'il ait attaqué la nature humaine par Ève. C'est ce qu'on va dire. Mais Ève était dans l'intégrité spirituelle. Donc, c'est la toute-puissance qui l'a attirée. Adam aussi. Par leur faute donc, selon les menaces qui leur avaient été intimées, voyez le vocabulaire très fort de l'époque, hein, Dieu n'est pas le Père Noël, voyez, eux et leurs descendants furent dépouillés de la grâce, de l'éternelle félicité en Dieu, ainsi que des autres dons qui ôtaient les imperfections et les infirmités de la nature. L'immortalité, l'impassibilité, l'intégrité. Qu'est-ce que c'est que ces dons ? Le fait de ne pas mourir, donc de ne pas vieillir. Impassibilité, de ne pas être susceptible de devenir malade, de surmonter tout le système bactériologique possible. Et l'intégrité, c'est l'intelligence et la volonté dans la rectitude du vrai et du bien. Et Adam et Ève avaient comme don plus particulier la science infuse. C'est-à-dire qu'ils avaient tout de suite un langage. Contrairement au film, vous voyez, Adam et Ève n'étaient pas là, à peine créés. Deux mammifères comme ça, sans vocabulaire. Adultes et sans vocabulaire, imaginez. Ou alors, un être humain bébé avec des parents singes. Il est là. Il aurait eu du mal à apprendre. Il aurait été un enfant loup ou un enfant singe. Il aurait dû petit à petit et plus tard, n'est-ce pas ? Non, Dieu a créé la nature humaine avec un langage et une compréhension déjà de ce qui l'entourait. C'est une aide quasiment nécessaire, si vous voulez, ce don préternaturel. Parce que, si vous voulez, il fallait qu'il ne s'empoisonne pas. Qu'ils vivent. Les petits êtres humains, eux, n'ont pas la science infuse. On doit tout leur apprendre, patiemment, et ça ne nous choque pas. Mais on leur apprend aussi à distinguer ce qui est bon et mauvais à manger, par exemple. Mais aussi ce qui est bon et mauvais à faire. Et le vrai Dieu. Quand des prêtres ou des parents disaient « Oh, mais laissez-le grandir, il choisira sa divinité », eh bien, si c'est Moloch, c'est dommage. Oui. Donc, mais je l'ai entendu encore il y a quelques jours. Hein. Oui. Pourquoi imperfection et infirmité de la nature? Parce que, par nature, notre corps est mortel. Et c'est une imperfection. L'immortalité est une perfection du corps animal qui n'est pas due à sa nature ordinaire. Mais il est bien évident que quand le bon Dieu a pris l'initiative extraordinaire de nous donner, de créer une nature avec la matière et l'esprit, comme les anges, mais la matière comme les animaux, eh bien, notre corps, il est éminemment mortel. Si Adam avait l'immortalité d'Adam, il n'y aurait pas épargné de tomber dans un précipice. Donc, par providence, Dieu l'aurait empêché de tomber dans un précipice, il aurait eu son instinct de survie, il aurait eu l'intelligence de ne pas prendre de risques. Mais, si vous voulez, si un rocher était tombé sur Adam, il aurait été écrasé. C'était pas Iron Man, Adam. Vous voyez, c'était pas, il n'était pas en acier. Il avait un vrai corps de mammifère. Et les autres animaux, pour décevoir les spécistes ou les antispécistes, le lion a toujours eu des dents pour manger de la chair. Il n'était pas herbivore. Oui, mais vous avez des exégètes qui disent, voilà, non. Les oiseaux ont toujours mangé des insectes. Et les carnivores ont toujours mangé de la viande. Et donc ça veut dire que Dieu a créé une nature très instructive. Les loups ont toujours été en meute, il y a toujours eu un mâle alpha, mais ce n'était pas ce qui était prévu pour la nature humaine. Vous voyez ? Donc c'est ce qu'on appelle les imperfections et les infirmités de la nature, c'est le fait d'être mortel, de pouvoir être malade, et aussi de pouvoir mal raisonner. Dieu nous donnait un don d'intégrité qui permettait à l'intelligence et à la volonté d'être en très grande harmonie. Tandis que la nature humaine en elle-même, voyez-vous, elle peut se tromper. On peut mal raisonner. Mais il y avait une providence particulière. Il y a une providence particulière pour la nature humaine. Vous avez par exemple Saint Albert le Grand qui n'avait aucune mémoire. Et alors qu'il était encore novice dominicain, il a voulu arrêter parce que il devait devenir prêtre, et donc comme il n'arrivait pas à retenir tout ça, enfin, il n'a pas eu il n'avait pas la persistance d'un saint curé d'Ars qui lui a insisté sans arrêt. Vous savez qu'il est devenu prêtre parce que l'évêque a fini par lui poser les questions en français. Pourquoi on posait les questions, on passait les examens en latin? Mais eh bien pour trier, hein. Faut pas que les gens deviennent prêtres parce que c'était pour un statut social. Ça écrémait, alors peut-être que ça écartait des saintes personnes pas très spéculatives, mais du coup c'était sévère. Et quand il a commencé à lui poser les questions en français, le saint curé d'Ars avait une excellente théologie, même dans des notions un peu complexes. Mais le latin était pour lui difficile. Il a dit, ça sera un très bon prêtre. Ah oui, c'est sûr. Mais voyez-vous, saint Albert le Grand qui n'avait pas de mémoire, les infirmités de notre nature... son ange gardien l'arrête et lui dit « Retourne au couvent, tu auras une mémoire prodigieuse jusqu'à ta fin pour le salut des âmes. » Et là, tout d'un coup, il a eu une mémoire, mais au-delà de la moyenne. Il connaissait tout par cœur. Et il a instruit d'ailleurs, il a été un excellent professeur d'un certain frère Thomas d'Aquin. Oui. Et avant de mourir, le bon Dieu lui a retiré ce don, et il se souvenait presque de plus de rien. De tel passage de l'Écriture et tout ça, il était heureux comme tout, il a dit « Seigneur, vous me l'avez donné, vous me l'avez repris, mais l'important, c'est tout le bien que je vous avais fait à travers ma nature humaine si faible. » Ainsi, sottement, là c'est le vocabulaire de 1900, hein, ça rigole pas, 1905. « Ainsi, sottement, ils se rendirent esclaves du démon, des passions, des misères, de la mort, et nous exposèrent tous à la perdition éternelle. Sixièmement, ils perdirent les délices du paradis terrestre, c'est-à-dire d'avoir des fruits abondants. Ils vivaient de cueillettes. Vous avez des peuples qui vivent plus principalement de cueillettes. Les sociologues, les ethnologues vous disent à tel moment, ils en avaient assez de parcourir ou de dépendre des saisons. Ils ont commencé à cultiver, à planter des graines, reprendre des graines de ce qu'ils avaient remarqué, être des éleveurs. Voilà. Mais dans le paradis terrestre, si vous voulez, entre le Tigre et l'Euphrate, il y avait une vie paisible. Dieu néanmoins, en les condamnant au travail et à la douleur corporelle, ne leur enleva pas l'espérance du salut de l'âme. Il leur annonça même qu'il détruirait la puissance tyrannique du démon par le Messie ou Christ qui viendrait dans la plénitude des temps. Par l'espérance et la foi en lui, l'homme revivrait s'il observait la loi morale gravée dans son cœur. Sa descendance t'écrasera la tête, dit-il à Satan. Donc il y aura un sauveur. Hein, celui qui naîtra de Ève t'écrasera la tête. Et donc c'est le Caravage, qui était pourtant un homme à la vie totalement dissolue, bisexuel au dernier degré, peut-être même uniquement homosexuel, très très pratiquant, pas chaste, pas humble, mais pourtant très spirituel et très croyant, très catholique, parce qu'il a fait des peintures qui montrent sa sensualité, mais qui montrent aussi une très grande foi. Eh bien, il a représenté Anne, la mère de la Vierge Marie, une personne âgée, très, très, très ridée, et la Vierge Marie, belle, avec l'enfant Jésus tout nu, 8-10 ans, et qui écrase la tête du serpent à travers le pied de sa mère. Et d'ailleurs, j'ai vu à Bruxelles, dans une église, au-dessus d'une chaire, la Vierge Marie, avec l'enfant Jésus, qui, de la même manière, voyez-vous, écrase la tête du serpent et même le transperce d'une lance. Mais on voit l'enfant Jésus qui le fait à travers le pied de sa mère. Un ensemble en bois impressionnant. Au-dessus de la chaire, mais qui fait 2 mètres de haut. Hein. La chaire et la statue de la Vierge qui écrase la tête du serpent avec l'enfant Jésus et avec une lance, qui elle-même, la statue fait 2 mètres en plus de la hauteur de la chaire. Troisièmement, corruption et déluge, le peuple choisi. Le contraire arriva, c'est-à-dire d'observer la loi morale gravée dans son cœur. À commencer par Cain, qui tua son frère Abel par envie. Les péchés se multiplièrent à mesure que se multipliaient les hommes, et le genre humain tout entier se pervertit. C'est pourquoi Dieu envoya le déluge sur la terre. Tous périrent dans ce châtiment, excepté le juste Noé et sa famille, sauvés dans l'arche. Grand navire que Dieu leur avait fait construire à ce dessein. Noé, préservé, offrit à Dieu un sacrifice d'action de grâce. Huitièmement, les diverses nations issues des enfants de Noé, Sem, de Cam et de Japhet, tous trois fils de Noé, se corrompirent elles-mêmes. Avec le temps, elles oublièrent l'unique vrai Dieu, ce qu'on appelle la tradition adamique. Et commençant un très grave péché, elles adorèrent à sa place de fausses divinités et des créatures. Alors Dieu choisit, dans le nombre très restreint de ceux qui lui étaient demeurés fidèles, le Chaldéen Abraham, de la race de Sem, les Sémites. Il l'appela hors de sa patrie et lui promit que, si lui et ses descendants gardaient la foi et la religion, il serait leur Dieu, les multiplierait comme les étoiles du ciel, les rendrait maîtres de la terre de Canaan ou Palestine, et dans sa postérité bénirait toutes les nations. La même promesse fut renouvelée par Dieu à Isaac, fils d'Abraham, et à Jacob, appelé aussi Israël, parce qu'il s'est battu avec l'ange pour avoir sa bénédiction, et l'ange, taquin, ne voulait pas lui donner. Et à un moment donné, l'ange l'a laissé tellement insister qu'il méritait cette bénédiction, donc il lui a coupé le nerf sciatique. Donc, Jacob est tombé à genoux, et il lui a dit, tu es fort devant Dieu, tu t'appelleras Israël. Hein? Force face à Dieu, devant Dieu. Hein? Et il le bénit, et il s'en va. Et Jacob, il a boité tout le reste de sa vie, pour se souvenir du combat avec l'ange. Hein? Voilà. Mais du coup, il a mérité le nom d'Israël. Second fils d'Isaac, Jacob. Neuvièmement, ainsi la race d'Abraham et d'Israël, qu'on nomme race hébraïque, parce que un des descendants de Sem s'appelle Héber, et c'était l'ancêtre d'Abraham, à quelques générations près, les Hébreux, devint le peuple choisi de Dieu pour garder la foi et la religion vraie, et pour transmettre la promesse du Sauveur. Mission accomplie. Nous sommes Hébreux, nous sommes Sémites de religion. Alors, un certain nombre de Juifs disent, ah ben non, enfin, Jésus n'était pas le Messie attendu. Et nous, on dit, mais si, mais non, mais si. Voilà. Grand 4, servitude d'Égypte, délivrance par Moïse. Petit 10, Jacob mourut en Égypte. Vous voyez, en quatre mots, ils vont mettre au moins 20 chapitres. J'insiste pas. Durant une grande famine, il s'y était rendu avec les siens auprès de Joseph, son fils de prédilection, que ses frères, jaloux, avaient vendu comme esclave, et que le pharaon, ou roi de ce pays, avait élevé à la plus grande dignité de ce royaume à cause de son esprit prophétique, de sa fidélité et de sa prévoyance. Vous apprenez ça par cœur et vous connaissez déjà la Genèse et l'Exode. Waouh! Le nombre des Hébreux s'accrut en cette région donnée par Pharaon et leur prospérité devint si grande que 430 ans plus tard, plusieurs siècles après, un pharaon cruel, jaloux de leur puissance, tenta de les exterminer en les soumettant à une très dure servitude et en ordonnant de jeter tous leurs enfants mâles dans les eaux du Nil. Petit 11. Mais Dieu intervint en faveur de son peuple. Moïse, le futur libérateur, avait été sauvé des eaux et élevé à la cour par la fille même du pharaon. C'est par lui que Dieu ordonna dans la suite au pharaon d'avoir à laisser partir le peuple hébreu. Le roi ayant refusé, son royaume fut successivement frappé de 10 fléaux terribles appelés plaies d'Égypte. Le dernier de ces fléaux fut l'extermination de tous les fils aînés des Égyptiens, en punition de la mort de tous les bébés qu'il y avait eu. Hein. Et c'était œil pour œil, dent pour dent, hein, même au niveau de Dieu. Il fut accompli en une nuit par l'ange, sans qu'aucune maison fût épargnée, en dehors de celle des Hébreux, marquée selon l'ordre de Dieu, avec le sang de l'agneau immolé. Passage de l'ange, Pâque de l'ange, Pâque c'est passage, et agneau pascal, agneau du passage de l'ange, et du passage du peuple dans les eaux de la mer Rouge. Petit 12. Alors le roi céda. Et Moïse partit aussitôt avec tout le peuple vers la mer Rouge. Voilà. Alors là, ça sera immortalisé. Oui. C'est la vengeance de Dieu. Et donc, mais les Égyptiens ne tardèrent pas à regretter d'avoir consenti à leur départ et ils se mirent à les poursuivre. Devant les Hébreux, les eaux de la mer Rouge se divisèrent pour les laisser passer. Les Égyptiens voulurent y entrer après eux, mais les eaux se réunirent et ils furent tous submergés. Vous comprenez bien qu'il n'y a pas de doute sur l'historicité de la chose. Le grand passage où Pâques était accompli, et le souvenir de cette miraculeuse libération devait être, dans la suite, célébré chaque année par les Hébreux en la plus solennelle des fêtes, jusqu'à l'accomplissement de la Pâque du Christ, qui a libéré l'humanité entière de la servitude, infiniment plus funeste, du péché. Grand 5, les Hébreux dans le désert, la loi, Josué, la terre promise. Petite 13. Les Hébreux furent conduits dans le désert. Dieu, dans l'éclat d'une grande majesté parmi les éclairs et les tonnerres, leur donna par l'intermédiaire de Moïse sur le mont Sinaï la loi morale du décalogue ou des 10 commandements, gravée sur 2 tables de pierre. Il leur imposa d'autres lois encore, rituelles et sociales, auxquelles son peuple devait se conformer jusqu'à la venue du Messie, s'il voulait obtenir la réalisation des promesses divines, être victorieux et heureux. Petit 14. Tel fut l'Ancien Testament, ou pacte de Dieu avec la nation choisie, telle fut la loi, loi antique, loi mosaïque, tout ordonnée avec ses minutieuses pénalités, à maintenir vive la foi et fidèle le culte de l'unique vrai Dieu, méconnu partout, préparant le Nouveau Testament ou la loi nouvelle du Christ, infiniment supérieure. Telle fut enfin la base et la constitution du peuple hébreu, fondée par Moïse. Et voyez comme l'Église catholique affirme que c'est le culte de l'unique vrai Dieu, la foi et la fidélité. Donc il n'y a pas de mépris. Voyez-vous ? Alors on me dit, oui, mais vous dites qu'elle est infiniment supérieure, donc il y a du mépris. Vous avez Benoît XVI qui a fait un texte, après la renonciation à l'exercice de la papauté, et donc il y a une polémique sur l'autorité de ce texte, puisqu'il précise bien qu'il y a un Ancien et un Nouveau Testament. Et comme il est de bon ton de dire que non, ça se vaut, et les Juifs n'ont pas à devenir chrétiens et n'ont pas à reconnaître Jésus comme leur Messie, que c'est une religion autonome comme la religion chrétienne, bah alors à ce moment-là, il y a un grand problème. Et comme l'a vu la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich, en 1820-1823, elle a eu des visions aussi pour l'avenir par rapport au passé et aux livres qu'on connaît d'elle sur la vie du Christ, la vie de la Vierge et la Passion. Elle qui a été béatifiée, donc dont on a vérifié les écrits. Donc dans un dernier livre qui la concerne, qu'on appelle « La vie » d'Anne-Catherine Emmerich, et qui est moins connu que les 3 livres dont je viens de vous parler, elle a des visions sur l'avenir. Et elle dit « Je vis de nombreux juifs à la porte d'une église, ils ne pouvaient pas encore entrer. » Ne faisant que exprimer d'ailleurs ce que le Christ a dit, quand il a dit « Vous me reverrez quand vous direz « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » et saint Paul qui dit que le relèvement d'Israël sera merveilleux puisque sa chute, son hésitation vis-à-vis du Messie pour un grand nombre de juifs a permis à tous les autres peuples de connaître la vraie religion. Donc quand les juifs encore constitués en nation vont devenir catholiques, ça va être extraordinaire. Et c'est la raison pour laquelle vous avez les évangéliques américains, ou peut-être même certains catholiques, qui sont pour la construction du temple de Jérusalem, pour que les juifs soient tous rassemblés en Israël, parce qu'ils pensent que ça va faciliter leur conversion à Jésus. Vous voyez, donc il y a un sionisme juif, dit mais c'est notre terre ancestrale, on y retourne, et il y a un sionisme chrétien, plutôt protestant, qui facilite l'existence de l'État d'Israël en vue de leur conversion. Mais voyez, ce paragraphe est rempli de ce que je viens de vous dire. Je le redis. Tel fut l'Ancien Testament ou pacte de Dieu avec la nation choisie, telle fut la loi, loi antique, loi mosaïque, tout ordonné avec ses minutieuses pénalités à maintenir vive la foi et fidèle le culte de l'unique vrai Dieu, méconnu partout, préparant le Nouveau Testament ou la loi nouvelle du Christ, infiniment supérieure. Telle fut enfin la base et la constitution du peuple hébreu, fondée par Moïse. Petit 15. Les Hébreux, honorés d'un tel pacte avec Dieu, miraculeusement nourris par lui dans le désert, avec la manne qui tombait comme la rosée, et désaltérés aux eaux tirées du rocher par le bâton, la verge de Moïse, les Hébreux, par leur faute, méritèrent que leur entrée dans la terre promise fût retardée de 40 ans. Moïse mourut à la frontière de la Palestine, laissant pour successeur Josué, qui en fit la conquête et la divisa entre les 12 tribus, issues des 12 fils de Jacob. Les pérégrinations d'Israël avaient duré 40 ans. Grand 6. Les juges, les rois, David, Salomon, le temple, royaume de Juda. Bon, 700 ans d'un coup. Petit 16. Après Josué, le peuple fut gouverné par les juges, suscités de Dieu, quand surgissait quelque nécessité plus grave. Donc les juges sont des personnes providentielles. Il y a eu 2 ou 3 femmes parmi les juges. Ensuite, par les rois, dont le premier, Saül, fut plus tard rejeté de Dieu et remplacé par le valeureux et fidèle David de la tribu de Juda, dans la famille duquel devait rester la succession héréditaire du trône et prendre naissance à la fin le Messie, dont le règne n'aurait point de terme. Donc les prophètes précisaient où viendra le Sauveur, ça sera de David à ce moment-là. Avant, tout le monde était un peu dans l'expectative, sauf que Jacob, Israël, avant de mourir, dit à son fils Judas, « Viendra de toi celui qui doit gouverner le monde, celui qui doit dominer la terre. » Donc les Hébreux savaient déjà que c'était de la tribu de Judas que viendrait le Messie. Et au moment de David, on sait que ça sera de la famille de David, au sein de la tribu de Judas. Petit 17. Salomon, fils de David, fut plein de sagesse et très heureux. Il éleva dans la ville de Jérusalem un magnifique temple au Seigneur. Mais en sa vieillesse, il tomba dans la luxure et l'idolâtrie. Ses fautes, ainsi que la sotte dureté de son fils et successeur Roboam, firent perdre à la maison de David 10 tribus qui constituèrent sous Jéroboam, chef de la rébellion, le royaume d'Israël. Donc il y a eu le royaume historique Jérusalem, le royaume du sud et le royaume du nord qui a pris le nom typique du peuple, royaume d'Israël. Du coup, le royaume historique a pris le nom de royaume de Juda, de la tribu principale du roi légitime, et le royaume du nord, le royaume d'Israël avec des rois illégitimes. Mais on dit que Salomon s'est converti avant de mourir. Hein. Vanité des vanités, tout est vanité. Et les psaumes. Les psaumes du roi David, mais vous avez les psaumes aussi du roi Salomon. Bientôt, ce royaume tomba dans l'idolâtrie, très vite. Le dieu Apis, le veau d'or, adoré lors du départ d'Égypte. C'est pourquoi il fut réprouvé de Dieu et détruit à jamais par les Assyriens. Pendant ce temps, les tribus elles-mêmes de Juda et de Benjamin, les 2 petites tribus restées fidèles au roi légitime, restées sous le sceptre des descendants de David et formant le royaume de Juda, furent souvent infidèles malgré les reproches des prophètes, spécialement sous quelques rois impies comme Akaz et Manassé. C'est pourquoi Dieu envoya Nabuchodonosor, roi de Babylone, qui assiégea et détruisit Jérusalem avec le temple, et emmena roi et peuple en esclavage. C'est vite dit. 7e, grand 7. Captivité de Babylone, le retour, le nouveau temple, les prophètes, la réalisation des prophéties. Petit 19. Dans les afflictions de la captivité de Babylone, aux paroles d'avertissement et de consolation des prophètes, le peuple s'amenda, raviva sa foi en Dieu et sa croyance au relèvement d'Israël par le Messie. petit vin. Lorsque, après 70 ans, Cyrus, roi des Perses, s'étant emparé de Babylone, Irak, accorda, selon la prédiction d'Isaïe, le retour dans la patrie, ce fut avec un grand zèle que, sous la direction de Zorobabel et de Néhémie, on reconstruisit Jérusalem en commençant par le temple, qui, moins splendide que l'ancien, ne devait pas être moins glorieux, car il lui était réservé d'être honoré par la présence du dominateur attendu et de l'ange du testament nouveau, c'est-à-dire Jésus. Le temple d'Hérode, c'est le temple. Vous voyez, les Juifs avaient pris les noms de comment dire, irakiens. C'était un chef juif, Zorobabel. Et pourtant, il avait un nom païen. Mais c'était pour être mieux intégré, hein, pour le coup. Le culte public fut rétabli par Esdras, ainsi que l'observance de la loi dont le livre fut lu au peuple et interprété. Donc ce deuxième temple a été orné de murs nouveaux de soutènement et de décoration par le roi Hérode. Vous voyez, à la naissance de Jésus, pendant près de 40 ans. Et donc c'est le second temple quand même. C'est pour ça que quand il sera détruit par les armées de Titus et de Vespasien, on parle actuellement du troisième temple, dont on a présenté les plans au président Donald Trump. Petit 21. Dans les siècles suivants, au sein de la décadence progressive et de la puissance et de la liberté nationale, il n'y eut pas, malgré la perversion d'un grand nombre, une diminution, mais un accroissement du zèle pour la loi et pour l'attente du Sauveur, annoncé en termes de plus en plus précis et distincts. Les prophètes en avaient successivement prédit, dans les plus minutieuses circonstances, la venue et la vie, la prédication, les souffrances, Isaïe, Jérémie, la gloire et le règne perpétuel. Ben, il est Dieu, hein, et toutes les nations ont entendu parler de Jésus. Si bien que plusieurs personnes cherchant vainement à s'appliquer à elles-mêmes les prophéties, osèrent se donner pour le Messie et échouèrent. Enfin parut Jésus de Nazareth, en qui se vérifièrent et s'accomplirent toutes les prophéties divines. Grand 8. Jésus-Christ, sa vie et sa prédication, sa mort, sa résurrection et son ascension au ciel. Petit 22. Jésus naquit à Bethléem de la Vierge Marie, épouse de Saint Joseph, descendant de David. Comme l'ange Gabriel l'avait annoncé, l'Esprit Saint était descendu en celle qui était pleine de grâce, et sans cesser d'être vierge, elle était devenue mère du Verbe divin qui s'était incarné en elle. Petit 23. L'enfant fut circoncis, selon la loi, et appelé Jésus, nom qui signifie sauveur. Pour se distraire aux embûches d'Hérode, la Sainte Famille dut fuir en Égypte. Au retour, Jésus vécut à Nazareth, dans une humble obéissance à Marie et à Joseph, croissant en sagesse, en âge et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Vers l'âge de 30 ans, après avoir reçu de Saint Jean-Baptiste, baptiseur, le baptême de pénitence dans l'eau du Jourdain, il se mit à prêcher dans la Judée et la Galilée l'Évangile, ainsi appelé parce que c'était la bonne nouvelle de la rémission des péchés et de la vie éternelle pour ceux qui croiraient en lui et observeraient ses enseignements. Il confirmait par les plus étonnants miracles sa divine mission et sa doctrine.